Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Depuis dimanche dernier, cela ne vous aura pas échappé, a commencé l'Avent, ce temps liturgique qui nous aide à nous préparer à la venue d'un petit homme né dans une grange, un petit Emmanuel. Une réalité à laquelle nos deux chroniqueurs cinéma ont été attentifs, puisque ce sont des films autour de la question de l'enfance qu'ils ont choisi. L'enfance, une force brute, une sorte de triomphe de la vie et de la joie, que l'on contemple plus ou moins ravi, notamment le jour de Noël, mais que l'on s'empresse souvent d'oublier aussitôt après. Pourquoi ? Eh bien, c'est à cette question clé du royaume de Dieu à laquelle je vous propose d'être attentif aujourd'hui pour vivre une sorte d'avant cinématographique. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission de cinéma de Radio Présence N'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Paul Dima, intervenant cinéma auprès des Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest, et autres chroniqueurs cinéma de cette émission. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, et bonjour à tous aussi.
Voilà, et tous les deux, donc vous êtes animateurs aussi de Ciné-Parole, je le rappelle, parce qu'il faut oser, chers auditeurs, les rejoindre. C'est une autre manière d'aller au cinéma, d'apprendre à regarder des films. Ciné-Parole, c'est donc ce ciné-club à Toulouse, en lien avec le cinéma L'ABC, cinéma d'art et d'essai. Et prochaine séance, on en reparlera le 13 décembre prochain, avec le premier film, Amanda. Amanda, film de Michael Hers. On va tout simplement commencer par écouter la bande-annonce du film, et puis après on en parle.
Tu veux pas que je rentre en fait?
Je garde un peu avec moi.
J'ai fait connaissance avec Amanda et ta sœur hier. Ça doit être quelque chose, hein, d'élever sa gamine comme ça, seule.
Tricheur!
Maman.
Comment c'est possible une chose pareille?
Je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux, j'ai tellement peur là, je...
Juridiquement, vous pourriez être son tuteur.
Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour.
Ça dort, maman.
T'es pas chez toi ici.
C'est pas toi qui décides pour les brosses.
Amanda, elle a besoin de toi.
Parfois, j'ai l'impression que c'est plus elle qui est là pour moi.
À droite, toutes. On a pas tout de suite.
Tu penses qu'on va réussir à supporter?
Tous les jours?
Tous les jours.
On verra bien.
Voilà, Amanda de Michael Hers, donc à l'affiche, film donc vous commenterez le 13 décembre prochain. Comme à l'accoutumée, je lis quelques critiques, les inrecuptibles. Amanda nous pique au cœur, comme nous cueille la jeune actrice Isor Multrier, incarnation bouleversante jusqu'à une épiphanie finale qui la cadre radieuse, gorgée d'avenir. Marie-Claire, pour aborder ce sujet difficile, Amanda fait preuve d'une grâce et d'une précision formidable. Le Monde, de ce climat de violence et de fragilité, le cinéaste tire une élégance qui lui est propre, une pudeur qui se manifeste à travers un art de l'ellipse et de la respiration dont on ne peut que lui savoir gré. Et j'ai vu, Louis-Marie, qu'il était dit de Michael Hers, peut-être que tout le monde ne le dit pas, que ça serait l'un des plus grands cinéastes français d'aujourd'hui et de demain. L'histoire, peut-être d'abord. Je vous ai un peu posé deux questions en une, ce qui est un peu de mes spécialités. L'histoire, racontez-nous l'histoire. Qu'on ne devine pas tout à fait avec la bande-annonce.
Non, mais on comprend avec l'histoire de la brosse à dents et du fait qu'on va devoir vivre ensemble. C'est Paris, de nos jours. David, il est tout jeune. Il a 24 ans, c'est un jeune adulte, et il vit de quelques expédients, il a différents petits boulots, il s'accroche aux arbres pour les élaguer, et puis aussi il s'occupe d'appartements pour quelqu'un, il loue les appartements, il gère quoi, les gens, les locataires de ces appartements qui peuvent venir juste pour quelques jours, qui sont des touristes ou qui peuvent rester plus longtemps. Il a une sœur aînée qui a une petite fille, une fillette de 8 ans, hein, quelque chose comme ça, 8-9 ans. Et ils s'aiment beaucoup tous les deux parce qu'ils ont été élevés par leur père. Leur mère les a abandonnés très tôt, c'est important de le savoir. Et, Vincent en veut beaucoup à sa mère, sa sœur, elle, moins. Leur mère est anglaise et la sœur aînée de David est prof d'anglais. Et voilà qu'à un moment dans Paris, eh bien, elle va soudainement être assassinée, elle va mourir, et David va devoir s'occuper de sa petite nièce.
Et donc, deuxième question, Michael Hirst, même si on va après parler du film, l'un des plus grands cinéastes français d'aujourd'hui et de demain, quel serait votre commentaire, Louis-Marie ?
On aime...
Pour ceux qui ne sont pas aussi calés que vous.
Oh, je ne sais pas si je suis calé,
vous m'attribuez une connaissance. Mercredi soir.
C'est gentil, merci. En tout cas, en trois films, il a fait quelques production remarquable. Son avant-dernier film, Ce sentiment de l'été, avait un sujet un peu voisin. Et ce qu'on admire toujours chez ce qui fait dire ça de Michael Hirst, c'est cette pudeur qu'il a à montrer des choses dramatiques, des choses difficiles. Dans Ce sentiment de l'été, eh bien, c'était un...
Mais j'ai l'impression que quand même, vous dites souvent ça, l'art de ce cinéaste, c'est de montrer avec pudeur une chose dramatique.
Oui, c'est vrai. Alors, j'allais me moquer de mes confrères qui disaient que c'était un réalisateur qui allait compter, un grand réalisateur français. Ben oui, j'utilise les mêmes formules. Dans Ce sentiment de l'été, il parlait de la disparition de quelqu'un également. Dans un couple, la jeune femme décédée et comment son mari allait faire le deuil de sa disparition en même temps que la famille de cette jeune fille. Bien là, cette fois-ci, c'est un frère... Une petite fille, la nièce de ce garçon, de ce jeune homme, de ce jeune adulte, et comment ils vont devoir composer avec l'absence d'un être cher, très cher pour l'un comme pour l'autre, encore plus pour la petite fille puisque c'est sa maman.
Paul Dima, première question, donc, film autour de la question de la mort.
Oui, et alors là il y a une façon tout à fait originale d'aborder ça. C'est donc un attentat terroriste qui a coûté la vie de la maman, de la petite Sandrine, non de Sandrine, donc la sœur de David. Et Michael Hirst filme de façon assez remarquable avec le sens de l'ellipse aussi, la sidération qui suit la mort par attentat. Il nous promène dans les rues de Paris vides et David est comme un espèce de zombie ou d'automate dans ces rues. Il dit rien. Il va devant les hôpitaux. Il rencontre une fille avec laquelle il commence à nouer une relation. Et ils se disent rien. Enfin, tout le monde est frappé de sidération. Et puis après, il y a la confrontation avec sa nièce. Comment dire « Ta maman est morte ». Eh bien, il dit... et il éclate en sanglots. Et il dit de façon très pudique, parce qu'il dit « Mais on ne la reverra plus. » « Non, on ne verra plus. » « Non, je veux revoir ma maman. » « Mais non, on ne la reverra plus jamais. » Et c'est très beau, c'est très, très pudique et très fort en même temps. La force de ce film, c'est qu'il touche des choses extrêmement sensibles sans sombrer dans le pathos. Et ce serait très facile de faire sortir les mouchoirs. Et il y a de l'émotion, mais maîtriser.
Louis-Marie, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce film pour Ciné Parole ? On imagine que vous aviez le choix. Pourquoi est-ce qu'il vous a tapé dans l'œil et dans le cœur ?
Eh bien, le sujet difficile et délicat, c'est le fait d'utiliser délicat, maintenant ça va me faire sourire chaque fois.
Tout est d'en parler avec pudeur.
Avec pudeur, exactement. Non, c'est le sujet et la façon dont Michael Hirst a choisi d'en parler. Il parle de Paul vous l'a abordé à l'instant, il parle de choses difficiles, le décès d'un être cher, il parle des attentats, et il fait ça sans jamais être démonstratif. C'est ça qui est bien et qui est intéressant dans son cinéma, c'est on montre les choses, mais on n'a pas besoin d'appuyer. On n'a pas besoin d'appuyer à la fois avec les images, à la fois avec les dialogues, pour montrer ce qui est dramatique. Parce que ce qui est aussi dur pour David, c'est qu'il a échappé miraculeusement à l'attentat. Pourquoi ? Parce qu'il il est en retard. Il est en retard à un pique-nique. Un pique-nique où il aurait dû être. Il aurait dû être avec sa sœur, il aurait dû être avec cette jeune femme dont il a fait la connaissance, et il n'est pas là parce que justement, il doit donner des clés à un locataire qui est en retard. Donc, il faut qu'il compose avec tout ça, David, pardon. Et Michael Hirst arrive à faire quelque chose de très fort en utilisant finalement un argument qui aurait pu tomber dans du misérabilisme. Et ce qui n'est pas le cas.
Autre thème, Paul Dima, c'est un jeune homme qui devient un homme à la faveur de ce drame, qui doit rentrer, on va dire, dans le monde adulte avec force. Voilà, c'est quoi ? Il y a quelque chose d'initiatique dans ce film ?
Tout à fait, ça lui tombe dessus à ce pauvre David, il n'avait rien demandé, il était plutôt un tonton sympa, mais de là, alors ça lui tombe dessus, il dit « mais alors je vais faire quoi moi ?» il commence à nouer une relation amoureuse avec une jeune femme, Lena, qui elle-même a été, elle n'a pas été tuée, mais elle a été blessée au cours de cet attentat, parce qu'elle était avec la sœur de David. Et il ne sait plus trop comment se situer. Et par rapport à sa petite fille qui est comme un enfant partagé entre des moments d'abattement, où elle pleure, elle sanglote parce que sa maman n'est plus là, et donc il doit gérer ça aussi. Il y a beaucoup de scènes où il y a peu de mots, mais il y a des attitudes qui sont très belles. Et puis, à d'autres moments... cette petite fille qui n'a que 7 ans est dans la vie parce que la vie un enfant est dans la vie.
Alors je vous pose ma question, ma question donc on va dire de l'avant. Qu'est-ce que cette petite fille, qu'est-ce qu'elle dit du mystère de l'enfance peut-être que l'on va contempler à Noël ?
Eh bien, je dirais que le mystère de l'enfance, alors bon, on peut l'interpréter de plusieurs points de vue. Moi, je pense que sa grande force, c'est qu'un enfant fait confiance. Il a la vie devant lui, et cette vie est plus forte que... il y a des périodes d'accablement, certes, mais il y a un ressort aussi extraordinaire. Ils sont la vie qui pousse les adultes. Et là, David va devoir faire tout un chemin où il va devoir s'improviser papa, alors qu'il n'était pas du tout préparé à ça. Et on voit la lente transformation de ce binôme petite fille, grand adulte, un peu encore ado, qui vont s'ajuster et pour que la vie l'emporte, quoi.
La confiance, ça sera donc, on va dire, le première pépite qu'on va garder de l'enfance. On va faire une première pause et puis on vous retrouve pour parler du chef-d'œuvre humaniste du mois, Forrest Gump.
Thank you.
l'Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est donc, pour rappel, le thème de l'émission de ce matin, émission Vivante Église, avec nos deux messieurs cinéma, Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission de cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, intervenant cinéma auprès des Cotopaïs, centre jésuite du Sud-Ouest. J'ai oublié de donner la date donc du prochain Ciné-Parole que vous animez tous les deux en lien avec le cinéma d'arrêt d'essai L'ABC à Toulouse. Peut-être un jour, il y en aura-t-il dans d'autres départements de notre région. Deux rendez-vous à 14h30 et 20h30 donc pour le premier film dont on a parlé, Amanda de Michael Hirst. Deuxième film, donc chef-d'œuvre humaniste, Forrest Gump. Voilà, en tout cas quand on regarde sur le fameux site Allociné, pardon de leur faire de la publicité, et il est classé comme le best-seller, je ne sais pas si on dit ça pour les films, par le grand public, pas toujours par la critique. Louis-Marie nous en dira quelques mots. Qui n'a pas vu en tout cas ce film, et si on ne l'a pas vu, il est urgent de le voir. Voilà, film splendide, on va commencer par écouter la bande-annonce.
Je m'appelle Forrest, Forrest Gump.
Enfin, il est possible que mon fils soit un peu lent. Mais mon petit Forrest aura exactement les mêmes chances que les autres enfants. Je ne le laisserai pas dans une école spéciale où on lui apprendra à réchapper les pneus.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Maman, qu'est-ce que ça veut dire en vacances ?
En vacances ?
Où est allé papa ?
En vacances, c'est quand on va quelque part et qu'on ne revient jamais.
Je me rappelle très bien la première fois que j'ai entendu la plus douce des voix qui soit au monde. C'était ma meilleure amie. Ma seule amie.
Voilà, Forrest Gump, film de Robert Zemeckis. Louis-Marie nous en parlera davantage. Si on doit résumer le propos, c'est donc un petit Forrest. En tout cas, on le découvre jeune dans le film. Il vit en Géorgie, dans la ville de Savannah. Il vit seul avec sa maman dans une grande maison, grande maison américaine que l'on imagine être ces maisons un peu des plantations, c'est ça, hein ?
Oui, ça ressemble à ça. Voilà. Oui, puisque c'est le lieu où il y en avait. Mmh.
Cet enfant est un peu handicapé, on peut dire ça comme ça. Hein,
avec il est handicapé.
Voilà, avec un QI, on va dire, très largement inférieur à la moyenne. Il dit lui-même qu'il a un QI de 75 à un moment dans le film, je crois, ou alors c'est sa mère qui le dit.
C'est ça, 75. Oui.
Et c'est l'histoire d'amour avec une jeune enfant, Jenny, enfant maltraité. Ils se lient tous les deux et en est une amitié, ou en tout cas un amour, du moins du côté de ce Forrest Gump, qui va traverser en fait l'histoire des États-Unis. Voilà,
trois décennies.
Il y a plusieurs films qui se mêlent, des années 50 aux années 30, et ce jeune Forrest, on va dire qu'il aurait pu avoir une vie tout à fait banale et discrète, va se retrouver champion de football américain, rencontrer trois présidents, va faire la guerre du Vietnam, devenir champion de ping-pong de l'équipe militaire américaine, crevetier et milliardaire, espèce de Bill Gates de la crevette. Film adapté d'un roman, je ne sais pas si c'est utile de le préciser, Louis-Marie.
Oui,
Qu'est-ce que vous diriez pour compléter cette courte présentation pour
Parce qu'on ne connaît pas l'auteur. Enfin, quand on dit on ne connaît pas l'auteur, on peut vous dire son nom, mais à part ça, on ne sait pas trop ce qu'il a écrit d'autre. Enfin, moi, personnellement, il s'appelle Winston Groom. Non, vous avez tout dit, parce que Zemeckis, dans cette saga romanesque, cette histoire d'amour entre Forrest et Jenny, elle raconte, vous l'avez dit, trois décennies de l'histoire américaine. Zemeckis, ce qu'il aime, c'est parler des États-Unis, l'histoire des États-Unis. Robert Zemeckis, c'est le spécialiste des films justement qui se penchent sur l'histoire toute récente, toute contemporaine de son pays. C'est lui.
Autre exemple, vous avez un exemple
de C'est lui film? Qui a fait Retour vers le futur. les trois volets de Retour vers le futur. Alors, il aborde l'histoire des États-Unis chaque fois par le biais. Il aime bien aussi ces histoires de temps, de voir ce qui se passe avant, ce qui se passe après le moment. Parce que dans Retour vers le futur, on est au départ dans les années 50, puis on est de nos jours, puis on est dans le futur pour revenir après à l'époque de la conquête de l'Ouest. Donc là, pour le coup, il balaye pratiquement tout ce qui a fait les États-Unis. Là, cette fois-ci, trois décennies, il rencontre, vous l'avez dit, trois présidents des États-Unis.
Il inspire Elvis Presley.
Ouais. Les présidents sont quand même Kennedy et Nixon.
Il inspire John Lennon.
Oui, pour Imagine.
Voilà. Donc c'est un film qui a été, on va dire, un énorme carton aux États-Unis et probablement dans le monde, même si on n'a pas retrouvé les chiffres pour le monde. J'ai trouvé un article du journal Le Monde, justement, de septembre 1994. Ce film qui est sorti donc en juillet 1994 en France. Donc avant, aux États-Unis, en octobre 1994 en France. Donc avant même qu'il soit sorti en France, le journaliste disait la chose suivante: 30 millions de spectateurs, 250 millions de dollars. Voilà, c'est vraiment la petite histoire dans la grande. Je ne sais pas si c'est une marque de fabrique des grands succès, cette petite histoire dans la grande. Et tout le monde peut s'identifier en partie à ce personnage, on y reviendra. Les critiques presse, en France en tout cas, n'ont peut-être pas été fameuses. Je ne sais pas si ça a quelque intérêt de le dire, mais je le dis quand même. Télérama, il y a tout dans Forrest, de la bluette romantique au festival d'effets spéciaux, en passant par une révision iconoclaste de l'histoire des États-Unis, mais ils en disent guère plus, en tout cas pas de citation positive. Et Le Monde, justement, fable dont le prince est un benêt, le nouveau grand succès du cinéma hollywoodien, tente laborieusement de faire prendre la sottise pour la sagesse la plus profonde. Je ne sais pas si c'est représentatif des critiques à l'époque, mais en tout cas, bon, ça n'a pas eu l'air d'être un franc succès du côté de la critique. Quelle lecture faut-il en faire, peut-être, Louis-Marie?
C'est-à-dire que le projet de...
Trop simple pour être
de Zemeckis. Le projet de Zemeckis est évidemment, et le film de Zemeckis est évidemment ambitieux. Parler de trois décennies, et pas n'importe lesquelles, de l'histoire des États-Unis, parce que, vous l'avez dit, la guerre du Vietnam, il traverse quelques crises, quand même. Et on parle du sida sans le nommer. Aussi.
Puisque Jenny mourra.
De cette maladie qui ne sera à aucun moment désignée comme telle. Et c'est ça, c'est justement le. On lui dit, bon, ben, il a choisi un personnage limité, et pour cause, pour aborder des sujets sérieux, mais comme il est limité, il les voit à l'aune de ce qu'il est capable de faire. Et ça, on lui a reproché. De se cantonner, justement. On comprend qu'il a le point de vue de Forrest Gump, mais on aurait bien aimé avoir en plus du point de vue de Forrest Gump ce quelque chose qui est derrière, ce qui est le décor, d'avoir quelque chose de plus profond. Néanmoins, le film touche aussi, parce qu'il a une autre étiquette, c'est aussi qui est parfois, ça dépend comment c'est pris, c'est ce que les Américains ont appelé un peu plus tard le feel good movie. C'est-à-dire qu'on va voir ce film et on sort de là content.
Oui, et qu'est-ce que la profondeur? On pourra peut-être se poser la question aussi après.
Exactement.
On va écouter un autre extrait, fameux extrait. Bon nombre d'auditeurs reconnaîtront, et les autres peut-être ça les aidera à les mettre en bouche.
Bonjour, je m'appelle Forrest, Forrest Gump. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vos chaussures doivent être très confortables. Je pense qu'on peut marcher toute la journée dans des chaussures comme ça sans rien sentir. J'aimerais avoir des chaussures comme ça.
J'ai mal aux pieds.
Maman disait toujours qu'on peut savoir beaucoup de choses sur une personne en voyant ses chaussures. Où elle est allée, où elle va. J'ai porté des tas de chaussures. Je parie que si j'y pense très fort, je pourrais me souvenir de ma première paire de chaussures. Maman disait qu'elle pouvait m'emmener n'importe où. Elle disait que c'était des chaussures magiques.
Très bien, Forrest. Tu peux ouvrir les yeux maintenant.
Voilà, ça c'est un extrait. Donc une partie de l'intrigue, c'est Forrest qui attend sur un banc pour retrouver Jenny, qui va lui annoncer voilà quelque chose de bouleversant dans sa vie. Il attend donc sur un banc son bus, ou enfin il attend un rendez-vous. En tout cas, il y a des gens qui attendent le bus avec lui à côté, et il raconte son histoire qui est complètement invraisemblable. Quel est le premier commentaire que ça vous inspire, Paul Dima?
Alors, Forrest Gump était un enfant handicapé des jambes. Il avait les deux jambes appareillées.
J'ai pas gardé le fameux cours Forrest.
C'est justement.
Alors, à l'antenne, ça donnait pas grand-chose.
Il est poursuivi par des mauvais garnements.
Il est maltraité dans son enfance.
Parce qu'il souffre douleur un peu dans son école et tout. Et il est poursuivi par des garnements. Et son amoureuse d'enfance lui dit: cours Forrest, cours plus vite. Et en courant, il fait voler en éclats ses attelles et il se met à courir pour pratiquement ne jamais s'arrêter.
Extrêmement vite.
Voilà, à sa propre surprise, à la surprise de tous. Et on voit ce Forrest Gump, et dans l'extrait qu'on a entendu, qui raconte son histoire avec les yeux d'un enfant. Il lui arrivait des tas d'aventures. On citait tout à l'heure les différents présidents des États-Unis, y compris la guerre du Vietnam, où il a sauvé plein de militaires, etc.
Il révèle à son insu le scandale du Watergate.
Oui, enfin,
bon. Oui, parce qu'il est gêné par des lampes torches dans l'immeuble d'à côté.
La nuit, et alors il téléphone au réceptionniste en disant: vous pourriez dire qu'ils éteignent leurs lampes parce que ça me gêne pour dormir. Enfin, il passe à côté de tout, avec une naïveté. Il devient tout d'un coup milliardaire parce que un de ses anciens compagnons d'armes a investi dans une société qu'a à voir avec les pommes, c'est Apple, et qui devient une fortune colossale.
Il monte la pomme.
voilà. Donc il se rend compte, il passe à côté de ce qui intéresse les adultes, avec une grande naïveté, mais une grande simplicité.
Donc c'est un adulte qui regarde le monde avec, comme un enfant.
Avec les yeux d'enfant. Et il rêve toujours de son amoureuse qu'il rencontre de temps à autre, mais après de grands intervalles, où elle repart vivre sa vie, qui est un peu chaotique d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il la rencontre à la fin.
Je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait qui dit justement un petit peu l'âme de ce Forrest Gump, de l'enfant qu'il est, de l'adulte qu'il est.
Oui. Enfin, on sait rien. Parfois, il s'arrêtait de pleuvoir assez longtemps pour que les étoiles sortent. Et c'était joli. C'était comme le moment où le soleil va se coucher sur le bayou. Il y avait toujours un million de petits points brillants sur l'eau. Comme ce lac de montagne. Tout était si clair, Jenny. On aurait dit qu'il y avait deux ciels l'un sur l'autre. Et puis dans le désert, quand le jour se levait, j'aurais pas pu dire où s'arrêtait le ciel et où commençait la terre. C'était si beau.
J'aurais tant aimé être avec toi.
Tu y étais?
Voilà, ça c'est un extrait donc à la fin du film, et Jenny lui pose une question, lui demande en fait, j'aurais dû le dire avant, pardon, est-ce que tu as eu peur pendant la guerre du Vietnam? Et sa réponse, très surprenante, et en même temps qui dit beaucoup de choses, je trouve, c'est de parler justement du ciel, et après c'est d'enchaîner en fait sur tout ce qu'il a contemplé pendant sa vie. L'autre, c'est quand il traverse les États-Unis, on va dire d'est en ouest, je crois, à plusieurs reprises, après donc que Jenny soit partie. J'aimerais que, comment dire, peut-être que vous parliez un petit peu de l'amour qu'il y a entre Jenny et Forrest Gump. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses mêlées à l'intérieur de cet amour. Jenny est une femme, on va dire, qui n'a pas de handicap, qui a un amour d'enfant, en fait, pour Forrest Gump. Forrest, lui, a l'amour, un amour tout court, hein, un amour unique et inébranlable. Et en même temps, on a l'impression, quelque part, qu'il l'éduque à l'amour, cette femme. Ils finissent d'ailleurs par se marier. ils ont un enfant ensemble. Il y a quelque chose d'assez étrange, en tout cas, qui est parfois mal à l'aise dans le film, parce que on dissocie souvent la passion de l'amour, on va dire, adulte, de la relation fraternelle. Et par là, dans ce film, on a l'impression que tout est un peu mélangé. Est-ce que c'est votre sentiment, Paul Dima?
Je ne saurais pas bien répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que lui, Forrest, aime depuis toujours, enfin depuis qu'il est enfant, cette Jenny, et qu'il aime quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, et là, la scène qu'on vient d'entendre, où il raconte à Jenny, à la fin de sa vie, à elle, la scène qu'il raconte, c'est pendant la guerre du Vietnam. Donc, ça pète de partout, et lui, ce qu'il raconte, c'est que il y avait des étoiles qui se reflétaient dans le lac, et ça faisait comme deux ciels l'un sur l'autre.
Et
Jenny est touchée, et il dit, mais tu étais là avec moi. Donc il n'arrête pas de... Et Jenny est peut-être un peu fatiguée de ses amours un peu fantasques et de ses aventures avec des milieux plus ou moins hippies, voilà, la drogue et tout ça. Et bon, à la fin, alors, ils se marient, ils ont un enfant, non. À un moment, ils se rencontrent et bon, ils font l'amour ensemble et puis elle s'en va. Et puis, quand il la retrouve à la fin, arrive un petit enfant, amené par une babysitter, et dit « Ah, tu as un enfant !» Oui, il s'appelle Forrest.
Et la réplique bouleversante, Forrest Gump, première question qu'il pose, c'est « Est-ce qu'il est intelligent ?»
Oui, et lui dit « Et c'est toi le papa ?» Et alors là, il découvre tout d'un coup qu'il est papa, il n'imaginait pas. Et là commence leur histoire de couple stable, enfin jusqu'à la mort de...
Je repose ma question, qu'est-ce que Forrest Gump, qui est aussi, donc, on l'a dit, hein, une figure de l'enfance, apprend peut-être dans ce film aux spectateurs et à Jenny? Qu'est-ce que vous répondriez l'un ou l'autre?
Je dirais que Forrest est sans calcul. Il prend la vie comme il est et comme elle vient. Il est avec sa logique propre, alors qu'il n'est pas bâti ni sur des calculs, ni sur des interprétations. Il prend tout au premier degré.
Et il n'a pas honte de lui-même aussi.
Il n'a pas honte de lui-même, mais il ne cherche pas à tirer pour lui, soit des actes héroïques, soit quand il court aux États-Unis, il y a plein de gens qui se mettent à le suivre. Et puis il dit, mais pourquoi vous me suivez? Et ils le prennent pour un gourou. Et il dit, eh ben j'arrête. Voilà.
Oui,
oui, Marie Soler.
C'est justement ce comportement, c'est ce qui a été reproché. C'est juste, on revient au reproche du film, c'est que ben Forrest, il est bon, il est tout simplement bon et il est gentil. Il est gentil aussi. Pourquoi? Ben parce que sa maman lui a demandé d'être gentil. Alors, il est gentil avec tout le monde. Et il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Alors, c'est un va-et-vient dans le film entre l'amour, la fidélité, la confiance, la dureté, tout ça, s'imbrique et tout ça avec les yeux de cet homme qui, pour lui, tout ce qu'il voit, tout ça, pour lui, et son comportement à lui, est tout à fait normal et naturel.
Il n'est pas double, peut-être, pourrait-on dire. Hein.
Voilà. Tout à fait, non, et il est sans calcul.
Et voilà, deuxième Fioretti peut-être de l'avant, après la confiance des enfants, celle qui nous inspire et celle qu'ils ont. Le fait qu'il est souvent, ils ne sont pas doubles. On va faire une deuxième pause, et puis on va vous retrouver pour parler du chef-d'œuvre spirituel du mois, Philomena.
Thank you.
plaisance. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel donc l'émission cinéma mensuelle sur Vivante Église avec autour du plateau Louis-Marie Soler, producteur de l'émission cinéma donc de Radio Présence N'oubliez pas l'ouvreuse le mercredi à 19h et Paul Dima, intervenant cinéma auprès des Cotopaïs Centre Jésuite dans tout le sud-ouest, tous deux animateurs donc du ciné-parole, ce ciné-débat en lien avec le cinéma l'ABC à Toulouse. Dernier film, chef-d'œuvre spirituel donc du mois que vous avez choisi, Philomena de Stefan Frears. On va écouter la bande-annonce et puis comme d'habitude après on va en parler.
On nous a dit que vous l'aviez abandonné tout bébé.
Je n'ai pas abandonné mon enfant.
Anthony !
Il a 50 ans aujourd'hui.
Qui est-ce ?
Ta femme m'a dit que tu pensais faire une petite dépression.
J'ai été viré, je suis chômeur, moi, tu sais.
Oui, mais tu n'étais pas en faute.
C'est justement pour ça que je suis déprimé.
C'est Martin Sixsmith, l'ex-correspondant de la BBC.
Je connais une femme qui a eu un bébé à l'adolescence et qui n'a rien dit à personne pendant 50 ans.
Le sujet dont vous me parlez, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un reportage d'aventure humaine. Ça, j'ai toujours refusé.
Pourquoi ?
Bonjour, vous êtes Philomena.
C'est diabolique ce qu'elle t'en fait.
Je n'aime pas du tout ce mot.
Non, diabolique, c'est très bon. Pas, je veux dire, pour le reportage.
Vous êtes journaliste ?
Je l'ai été à une époque.
Martin est catholique pratiquant.
Enfin, je l'ai été à une époque.
J'ai l'impression d'être le pape. On me traite royalement.
Champagne ou mimosa ?
Oh non, merci.
C'est gratuit ?
Oh, tout compte fait. Ils vous font payer pour tout sur Ryanair. Je voudrais savoir s'il va bien, c'est tout. Il pourrait être mort au Vietnam ? Ou il pourrait être obèse ?
Pourquoi pensez-vous qu'il pourrait être obèse ?
À cause de la taille des portions.
Je l'ai rencontré.
Où ça ?
À Washington.
Vous vous rappelez s'il a dit quelque chose ?
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Même peut-être salut.
Oh, Martin. Je voudrais juste parler de mon fils avec vous. Il m'a été enlevé. Et depuis, je n'ai jamais cessé de le chercher.
Pourquoi Dieu nous pourvoirait d'un désir sexuel pour exiger ensuite qu'on y résiste ?
Vous savez, j'ignorais que j'avais un clitoris à l'époque.
Ah, je vois.
Voilà, Philomena, pardon pour ceux qui seraient un peu choqués par la chute de cette bande-annonce, mais voilà, le cinéma c'est aussi ça, et puis le cinéma c'est la vie, tout simplement. Film de Stefan Frears, donc sorti en 2013, voilà, c'est peut-être le plus récent parmi les chefs-d'œuvre spirituels que vous nous avez proposés depuis que cette émission existe. Film adapté d'une histoire vraie, l'histoire donc de Philomena Lee et de son fils Michael S., rapporté par le journaliste britannique Martin Sixsmith, dans son livre The Lost Child of the Philomena Lee. Je vous laisse non pas traduire, mais nous expliquer plus en détail, Louis-Marie Soler, en français s'il vous plaît, quelle est l'intrigue ?
Eh bien, on est en Irlande en 1952, Philomena Lee est adolescente à ce moment-là, et elle tombe enceinte. Et elle est rejetée évidemment par sa famille et envoyée au couvent de Roscrea. Et en compensation des soins qui lui sont prodigués par les religieuses avant et pendant la naissance, elle travaille à la blanchisserie. Et elle n'est autorisée à voir son fils Anthony qu'une heure par jour. Et à 3 ans, à l'âge de 3 ans pour Anthony, son fils lui est arraché pour être adopté par des Américains. Et pendant des années, donc, Philomena va essayer de le retrouver. Et c'est 50 ans plus tard qu'elle va rencontrer Martin Sixsmith, le journaliste qui...
Qui est ce journaliste ?
Vous l'avez compris, il est complètement désabusé. Et là, il a un parcours un peu particulier, ce journaliste. Il a été homme politique, et puis il a eu quelques... maille à partir un peu avec la justice. Enfin, il a fait des choses qui l'ont amené...
Cynique et désabusé.
Voilà, exactement. Et il est devenu donc journaliste. Elle lui raconte son histoire. Donc Philomena lui raconte son histoire. Et lui va la persuader de l'accompagner aux États-Unis pour retrouver Anthony.
Alors, peut-être la première chose que l'on peut dire à propos de ce film, c'est aller probablement vite en besogne. Sinon, il faut peut-être commenter un peu l'arrière-fond historique, un petit peu davantage, hein, de cette Irlande, on va dire, d'après-guerre, qui n'a pas été à la période de l'Église la plus glorieuse, même si on imagine qu'il y a plein de choses formidables. Mais en tout cas, certaines révélations au cours de ces dernières décennies ont dit que tout le monde ne s'était pas comporté de manière idéale. Paul Dima, quelques commentaires sur ce sujet.
Oui, le cinéma d'ailleurs s'est emparé de cette thématique-là. On pense au film Magdalena Sisters, où les religieuses, mais bon, recueillaient aussi des femmes qui étaient rejetées par la société et les familles, mais aussi les exploitaient, c'est-à-dire, comme l'a dit Louis-Marie, contre la nourriture et l'hébergement. Eh ben, en fait, elles travaillaient sans rien gagner et sans compter les horaires.
Et parfois, probablement qu'elles étaient traitées avec beaucoup d'amour pour certaines, mais aussi parfois avec un moralisme d'un autre âge.
Oui, et puis une rigueur. Voilà. Donc cette femme a vécu ça, s'est inspirée d'une histoire vraie, le roman, et elle a vécu ça, mais elle ne veut pas rentrer du tout dans... l'accusation des sœurs. Elle dit, mais non, il y en avait qui étaient gentilles. Elle n'a pas du tout l'esprit de vengeance. Le journaliste, lui, voit une occasion de faire, de redorer ses finances et sa renommée en publiant un récit...
un scandale.
Un récit à la fois scandale pour régler des comptes avec l'institution religieuse, et puis en même temps pour faire pleurer dans les chaumines, quoi. Il dit, à un moment on entend dans l'extrait, elles étaient, j'oubliais le...
Diaboliques.
Et elle dit, non, d'ici c'est très bon, parce qu'il a besoin d'en rajouter sur l'oppression, sur tout ça, pour faire un truc à sensation.
On va écouter un deuxième extrait, ils se rendent dans l'abbaye où Philomena se trouvait, donc en Irlande, l'abbaye de Shan Ross, et ils rencontrent l'une des sœurs pour essayer de retrouver la trace donc de ce fils disparu, qui a été confié, pour rappel, donc à l'adoption d'un couple, et qu'elle cherche à retrouver.
Bien, alors, je ne sais pas ce qu'on vous a dit la dernière fois, mais la plupart de nos archives ont été détruites par le feu il y a des années.
Oh. Détruites ?
Oui, c'était bien avant que j'arrive à l'abbaye, donc malheureusement, je ne sais rien de nouveau sur Anthony.
Je vais toujours à la messe. Je ne voudrais surtout pas faire d'histoire. Je n'accuse personne. Je n'en veux pas à l'église de quoi que ce soit. Mais je voudrais savoir s'il va bien, c'est tout. Je ne demande même pas à le voir. J'ai des visions de lui parfois. Il couche dans la rue et personne ne l'aime.
Philomena, la douleur, nous ne pouvons pas l'empêcher. Mais ce qui est en notre pouvoir, c'est de vous prendre la main et de vous aider à la surmonter.
Les sœurs les plus âgées, désolé de vous interrompre, les sœurs les plus âgées pourraient peut-être nous donner plus de détails.
Oh, la plupart d'entre elles sont décédées.
Soit, mais parlons des vivantes.
Et ça m'étonnerait que vous en tiriez des réponses cohérentes entre nous.
On peut peut-être essayer.
Je crains que ce ne soit pas possible, non.
Et pourquoi ça?
Je répondrai avec plaisir à toutes les questions que Philomena souhaitera me poser.
Là, c'est moi qui vous en pose une.
Vous êtes journaliste.
Oui, c'est vrai. Enfin, je l'ai été à une époque.
Martin est catholique pratiquant.
Oui, enfin non, je l'ai été à une époque.
J'estime que ce serait préférable si je pouvais m'adresser à Philomena en privé.
Voilà, extrait donc au début du film. Premier thème peut-être que l'on peut aborder, c'est donc la... Le pardon, en fait, cette femme, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de, semble-t-il, de colère, enfin, même si c'est, la douleur est là. Et donc, ce personnage de Philomena dégage quelque chose de singulier, Paul Dima.
Tout à fait, oui. Elle est à la recherche de son fils qui lui manque, dont elle n'a aucune nouvelle, et c'est son amour qui la guide. Mais elle n'est pas intéressée du tout par des histoires de comptes à régler ou de choses comme ça. Son seul objectif, c'est d'avoir des informations sur son fils qui lui a été arraché quand même.
Et le journaliste ne comprend pas tout à fait, non ?
Alors, le journaliste, lui, on l'entend bien, est plus pugnace. Il pose des questions de journaliste, et il, parce qu'il est persuadé qu'on cache à Philomena des vraies choses, parce que l'institution veut se protéger, parce qu'en en fait, ils ont vendu l'enfant à des richissimes américains, et que c'était monnaie courante, etc. Donc, lui, il est là pour faire un roman à charge, pour dénoncer ce système corrompu de son point de vue. Et elle est dit non, mais moi ça m'intéresse pas tout ça.
Très bon film pour les journalistes. Hein. On cherche à raconter des histoires en passant parfois à côté des vraies histoires. Voilà, je m'adresse ça pour moi-même et peut-être au reste de mes confrères. J'ai vu que Stéphane Frears, Louis-Marie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, sa veine, c'était la veine, je cite, du film hybride entre fresque et social et romance.
Oui, c'est ça. Exactement.
Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi, juste ?
Ça veut dire que c'est à lui qu'on doit des films comme My Beautiful Laundrette, où il parle de la relation d'immigrés.
D'amour entre un jeune paumé et un pakistanais.
Voilà, c'est ça. Il y a eu aussi Prick Up Your Ears, qui parlait de ce qui se passait dans, à Londres, en Angleterre. Il faut noter quand même que Stephen Frears est un très grand et très bon metteur en scène, mais qu'il est rarement l'auteur des films qu'il tourne. Mmh. Il a travaillé avec de très bons scénaristes. Et le film qu'on retient dans sa filmographie, et pourtant n'est pas dans la catégorie que vous venez de donner, ce sont Les Liaisons Dangereuses. L'adaptation du livre de Choderlos de Laclos, une adaptation fabuleuse du roman. Épistolaire de Laclos. Mais pour en revenir à ce film, donc, et c'est notre propos surtout, c'est que Philomena aussi donc, est inspirée par l'article et ce qui en est sorti, une nouvelle donc, de Martin Sixsmith, est portée par le comédien qui joue le rôle de Martin Sixsmith. C'est lui qui l'a amené à Stephen Frears, et Steve Coogan, c'est le nom de l'acteur, était surtout connu jusqu'à ce film-là pour être un acteur comique. Et il voulait se donner une image plus sérieuse, plus dramatique. Et il arrive fort bien à camper ce personnage opportuniste et cynique face à cette Irlandaise qui est compatissante et pieuse.
On va écouter un deuxième extrait, compatissante, pieuse, et puis qui a une certaine pureté de cœur et de simplicité aussi.
Martin, ils ont des omelettes au buffet, Entendez. Des pancakes, des gaufres garnis du rougeois, des céréales, du bacon, des saucisses, tout ce que vous voulez.
J'ai vu.
Le petit déjeuner est compris.
Oui, tout à fait. Mais il est trop tôt pour moi. Mon estomac n'est pas réveillé.
Oh, le mien se réveille avant moi tous les jours. J'ai commandé une grande omelette au gruyère et au jambon. Est-ce que ça vous tente ?
Non, merci, j'ai pas faim
du
tout.
Une petite tarte au
muesli. Non, merci, non.
Je vous invite à aller prendre une assiette pour vous servir. Nous avons deux buffets, un chaud, un froid.
D'accord.
Des fruits frais, des
céréales. Je
sais,
elle m'a dit.
Des omelettes avec garniture au choix.
Je sais exactement tout ce que vous servez.
Nous faisons aussi des pancakes.
Merci, mais on aimerait pouvoir discuter.
Toutes mes excuses.
Pourquoi vous lui parlez sur ce ton ? Elle est très sympathique, cette demoiselle.
Vous allez me dire qu'elle est unique au monde, ou qu'il y en a 10 ou 12 comme elle.
Je comprends pas.
Avec vous, tout le monde est absolument unique, alors ça perd son sens.
Vous devriez être plus aimable avec les gens en bas de l'échelle. Vous risquez de les croiser en redescendant. La roue tourne pour tout le monde. Vous devriez savoir ça. Parlez-moi mal à moi si vous voulez, mais pas aux employés de l'hôtel.
Je suis vraiment désolé, mais j'essaie simplement de retrouver votre fils. C'est pour ça qu'on est là, que je sache. Donc, ce serait pas mal que je puisse avoir un peu de calme.
Voilà donc la relation qui se noue donc entre Philomena et ce journaliste Martin Sixsmith. Pour finir, je ne sais pas comment vous commenteriez cette relation qu'il y a entre les deux, cette femme qui, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui rééduque d'une certaine manière ce journaliste ou cet ancien politicien ou homme politique désabusé.
C'est-à-dire qu'il la prend un peu comme le petit personnel. Il la prend un peu comme le petit personnel dans la scène. Candide. Elle est fragile, mais seulement c'est une force tranquille. Et elle avance, elle sait ce vers quoi elle veut aller et elle lâchera pas le morceau. Alors il pourra faire ce qu'il veut, le journaliste. Elle, elle a un but et elle ira jusqu'au bout.
Paul Dima, même question que pour les autres films, pour cette émission cinéma, donc de l'avant d'une certaine manière, même si là l'enfant est celui que l'on cherche ou celui qui a été, qu'est-ce que cet enfant vient quel rôle joue-t-il au cœur de ce film, vous diriez?
Eh bien, il est la préoccupation constante de sa mère, à qui il a manqué. Et elle n'en guérit pas, elle ne veut pas en guérir. C'est-à-dire que ce qui la touche dans son attitude de maman, c'est de retrouver trace de son fils. Le journaliste qui l'accompagne, lui, ce qui l'intéresse, c'est que son roman, le papier qu'on lui commande, soit bien payé et soit bien diffusé. Et elle, ça ne l'intéresse pas, ça. Et lui est prêt à tout pour que son histoire soit un peu croustillante et attire, soit vendable, quoi. Et elle...
Donc c'est quoi? C'est l'enfance qui provoque l'amour inconditionnel? C'est ça qu'il faudrait retenir
pour... Oui, mais en même temps, elle cultive cette qualité-là. C'est-à-dire, c'est pas un esprit d'enfance parce qu'elle est un peu... Elle rêve aussi, elle lit des romans de gare, des romans à l'eau de rose, etc. Mais... En même temps, elle fait le choix de rester dans la droite ligne de ce que son amour maternel lui inspire. Et l'autre essaie des fois de forcer les portes et tout, il n'obtient rien, et elle est désarmante.
Voilà, donc trois films à voir peut-être en cette période de l'Avent pour aider à rentrer dans le mystère de Noël. En tout cas, c'est sûr pour Forrest Gump, Amanda, Forrest Gump et Philomena. Et la prochaine séance de ciné-parole, donc au cinéma L'ABC, pour rappel, à Toulouse, c'est le 13 décembre prochain, deux séances à 14h30 avec Paul Dima et à 20h30 avec Louis-Marie Soler. On regarde le film, on en parle et on espère que vous serez nombreux à les rejoindre. N'ayez pas peur, ils ne sont pas si intimidants que cela. Merci beaucoup, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.